C'est un rempart que notre Dieu, nous dit ce célèbre cantique de Luther, « Eine Festburg ist unser Gott ». Ce thème est évidemment très biblique, en tout cas dans l'Ancien Testament, pas tellement dans le Nouveau, nous allons le voir. Mais on le trouve dans les psaumes, un nombre incalculable de fois, avec un nombre incroyable aussi de termes différents pour dire que Dieu est un rempart, une forteresse, un abri, une haute retraite, un rocher, un asile protecteur. Parfois on trouve tous ces mots les uns à côté des autres, comme dans le psaume 18. « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Tout cela nous donne un vocabulaire militaire, un peu curieux, je dois dire, et pas très à la mode aujourd'hui. Aujourd'hui, il est vrai que nous aimons mieux prêcher un Dieu plus doux qu'une muraille froide, et même si elle peut être rassurante. Nous aimons mieux annoncer un Dieu de tendresse, un Dieu d'amour. Nous aimons parler d'un Dieu même faible, d'un Dieu même qui meurt sur la croix, et non pas d'un monarque oriental victorieux dans toutes les batailles. Pourtant, peut-être est-il bon parfois de revenir à cette notion d'un Dieu victorieux, parce que la vie elle-même n'est pas toujours facile. Et certainement que nous avons besoin dans notre vie d'abri. Certainement ressentons-nous le besoin d'avoir dans notre existence quelque chose de fort, d'inébranlable, auquel on puisse s'accrocher, quelque chose que les épreuves ne puissent pas détruire, qu'il y ait pour nous un roc sur lequel nous puissions fonder notre vie. Donc cela, oui, j'aspire à cela, et pourtant, en y réfléchissant et à la lumière surtout de l'Évangile, je me dis, oui, mais en même temps, l'idée d'aller s'enfermer dans un donjon par peur du monde, ou l'idée d'aller s'enfermer derrière une muraille par crainte des épreuves, ne me semble pas très évangélique, pour tout vous dire. Parce que l'Évangile, ce n'est pas d'aller s'enfermer pour se protéger. Mais au contraire, moi, ce que je lis dans l'Évangile, c'est que nous sommes invités à sortir dehors, à aller se risquer dans le monde, au risque même de mourir, comme le Christ qui est mort et qui ne s'est pas enfermé dans un palais entouré de murailles, de remparts et de courtines. Il n'est d'ailleurs, Jésus, jamais comparé à une muraille, ni même à un roc, ou à quoi que ce soit de ce type-là. Jésus, il est montré comme la porte. Or, une porte, c'est pas une défense. Au contraire, une porte, c'est une faiblesse dans un ouvrage militaire. Et si on veut faire une bonne muraille, on va surtout éviter les portes. Il n'est pas cela, il n'est même pas celui qui nous enferme à l'abri. Dans l'Évangile de Jean, on nous dit qu'il est le bon berger. Il est le bon berger qui sort de la bergerie et qui emmène derrière lui ses brebis. Et donc, il n'est pas le bon berger qui enferme tout le monde bien à l'abri, protégé derrière des murailles. Il est au contraire le berger qui nous fait sortir des protections et des murailles. Justement parce que, peut-être, nous n'avons pas à rester dans cette logique de la peur. Et ensuite, dans l'Apocalypse, où on nous présente la Jérusalem céleste, c'est-à-dire l'idéal de la relation à Dieu dans l'avenir, certes, la Jérusalem céleste a des murailles, mais on nous dit que ces murailles sont en cristal. Alors bon, moi, je ne suis pas Vauban, mais a priori, des murailles en cristal, c'est quand même assez transparent, mais pas très solide, excusez-moi. Et puis, on nous dit que dans ces murailles, il y a 12 portes. 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est, 3 à l'ouest, 12 portes dans des murailles. C'est plus une muraille, c'est un gruyère, c'est une passoire que cette muraille de Jérusalem. Donc j'avoue que, après avoir voulu parler de ce cantique de Luther, j'ai eu un véritable moment de doute sur le caractère évangélique de ce rempart qui serait notre Dieu. Et donc je suis, comme il se doit, reparti avec ma Bible pour voir ce qu'il en est, et j'ai découvert que les choses étaient plus subtiles que ce que je pensais. D'abord, regardons un peu ces remparts, ces forteresses, ces asiles, ces protections que l'on trouve dans les psaumes. Parmi les nombreux mots que l'on trouve, il y a différentes choses qui explicitent de quelle manière Dieu nous aide et nous protège. Tout d'abord, il y a, j'appellerais ça les fortifications passives. Le rocher, Dieu est mon rocher. Il y a deux mots pour cela dans les psaumes, Tsour ou Sela. Le rocher, c'est l'image de ce qui ne bouge pas. Je crois que déjà ça c'est important. Dans sa vie, accrocher son existence à quelque chose d'immuable. Nous le savons, tout coule et tout passe. Héraclite, le philosophe grec, le disait, panta rei, tout coule. Rien ne demeure, et il est vrai que dans ce monde passager, rien n'est éternel. Tout un jour est, une époque n'était pas, et plus tard ne sera plus. Tout est passager. Et il y a là quelque chose d'extrêmement angoissant dans ce temps qui passe. Alors, nous avons la même chose dans 1 Corinthiens 13, ce célèbre chapitre sur l'amour, où Paul dit, vous savez, tout passera, tout est passager dans ce monde. Et il faut bien, dirais-je, qu'il y ait quelque chose de stable. Il faut bien qu'il y ait quelque chose auquel on puisse s'accrocher, auquel on puisse s'attacher. Quelque chose que le temps ne puisse pas détruire. Quelque chose qui ne puisse pas rouiller. Quelque chose que l'on ne puisse pas perdre. Sinon, notre existence elle-même devient un souffle. Et on ne peut pas se contenter d'être un souffle. Ou alors, en tout cas, l'Évangile ne prétend pas que nous devions assumer ce genre de choses. Et donc, il faut trouver quelque chose de stable et de fort. Et je crois que, justement, Dieu, c'est l'éternel. Dieu, c'est la seule réalité qui ne soit pas soumise au temps, c'est-à-dire qui un jour n'était pas et qui un jour ne sera plus. Dieu, c'est la transcendance. Et dans ce monde, tout ne peut pas un jour ne pas être et un jour être, sinon rien ne tient. Il y a donc un substrat, quelque chose de fondamental, d'éternel, un soubassement, un rocher justement, un roc en dessous de tout ça, qui est ce qui ne bouge pas. Et la foi, c'est de vouloir s'enraciner dans ce roc et trouver dans sa vie ce qui justement est au-delà du temps, au-delà de la corruption, au-delà de tout ce qui peut passer, quelque chose de stable. Et on trouve bien sûr de nombreuses choses comme cela qui vont dans ce sens dans l'Évangile. Quand Jésus dit « Ne vous faites pas des trésors sur terre où les voleurs et la rouille percent et dérobent et où tout détruit, mais faites-vous des trésors dans le ciel où les voleurs ne peuvent rien faire et où la rouille ne détruit pas. » La seule chose que l'on ne puisse pas nous enlever, oui, il faut qu'il y ait une base, un fondement, alors là, non pas pour s'y enfermer, mais je dirais plutôt pour avoir une fondation, un point fixe, je dirais même pour nous, si nous voulons partir, une piste de décollage en quelque sorte, un point d'appui pour aller dans le monde et pour agir dans le monde. Newton lui-même disait cela, « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde ». Spirituellement, c'est extrêmement vrai. Il faut dans notre vie qu'il y ait un point d'appui, quelque chose à partir duquel nous pouvons agir. Quelque chose qui ne soit pas remis en cause, que rien ne puisse détruire, un trésor que personne ne puisse nous ravir. Et on trouve aussi cela dans ce célèbre passage de l'évangile de Matthieu, où Jésus nous invite à bâtir notre maison sur le roc et non pas sur le sable. La maison bâtie sur le roc, le vent, la tempête sont passés et la maison a demeuré. C'est sans doute aussi dans ce sens que dans les psaumes, Dieu est présenté comme un rempart, une forteresse, où il n'y a pas forcément l'idée d'enfermement, mais souvent, le plus souvent, ce que l'on traduit par rempart et forteresse, c'est dans la langue de la Bible, maoz, cela veut dire ce qui est un pour-force. C'est quelque chose qui désigne quelque chose de fort. Et la force aussi est une chose importante. Alors, un pour-force, on a du coup, alors on ne sait pas comment le traduire dans les psaumes, on met un fort, Dieu est un fort, ou une forteresse, ou une ville forte, enfin, bref, c'est quelque chose de fort. Et la force qui résiste, là aussi il y a quelque chose d'important. résister au temps, résister à l'attaque des ennemis et de l'adversité et de l'épreuve, être capable de résister, cela les protestants calvinistes l'ont appris, et vous connaissez tous ce mot qu'avaient gravé les femmes enfermées pendant des décennies dans la tour de Constance, résister. Eh bien, résister, c'est ça. La force, c'est de résister. Mais la force, c'est aussi et surtout, je crois, pour agir. Et c'est là où je ne voudrais pas en rester à l'idée de résister. Parce que la résistance, je ne crois pas que ce soit nécessairement la résignation ou d'essayer de rester comme un piquet debout qui résiste aux épreuves sans bouger. Je pense que la résistance, justement, est quelque chose d'actif. On le voit par exemple à la guerre de 40. La résistance, ce n'était pas uniquement d'attendre stoïquement que les Allemands s'en aillent. La résistance, c'était quelque chose d'actif. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, la forteresse en hébreu, c'est étymologiquement un pour force. Et être fort, c'est pas résister stoïquement, être fort, c'est agir. Agir avec force et être dans l'action. Et c'est là où tout à coup, cette forteresse de Dieu m'intéresse, parce que on arrive à une conception dynamique et active de la force. On le retrouve dans un autre mot d'ailleurs dans les psaumes, qui est parfois traduit par forteresse, c'est matsoud. Et matsoud, ça vient du verbe tsoud qui veut dire chasser activement en quelque sorte. Donc vous voyez, on n'est pas la forteresse qui essaye de résister, on est quelque chose qui est pour aller chasser l'ennemi, donc s'opposer à l'ennemi et agir d'une façon active. Et je crois que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et on voit aussi que dans bien de ces mots de défense dans la Bible, il y a l'idée d'une action. Et cette idée d'une action, elle est finalement présente d'ailleurs dans presque tous ces mots de rempart et de forteresse des psaumes. Tenez, même ce rocher. Tout à l'heure, je vous ai dit, ce rocher, c'est ce qui est solide. On a l'impression que pour nous, le rocher, c'est ce qui est immobile, inébranlable. Eh bien, même pas. Parce que tsour, en hébreu, le rocher, ça vient de tsour, qui est l'ennemi, assiégé. Et ça, c'est un verbe, finalement, plutôt négatif, qui a quelque chose à faire avec les oppresseurs. Et cela montre que ce tsour, ce rocher de l'Éternel, c'est un rocher qui peut être un ennemi. Enfin, un ennemi des ennemis, évidemment. C'est un ennemi. Le rocher, c'est quelque chose qui peut faire du mal, parce qu'il peut devenir une arme. Donc ce n'est pas que le rocher solide qui ne bouge pas, ça peut être aussi le rocher que je vais jeter à la tête de quelqu'un, ou un rocher dont je peux me faire un couteau. Dans la Bible, il y a un des patriarches qui se fait un couteau avec de la pierre, et on retrouve ce couteau pour circoncire donc un de ses enfants. Et en tout cas, donc, ce rocher dans la Bible est loin d'être un rocher statique. C'est un rocher combatif. Et si l'Éternel est mon rocher, ce n'est pas qu'un rocher passif, mais c'est une force active qui nous est donnée. Et donc, voyez-vous, l'important n'est pas de rester caché derrière son rempart, mais c'est d'aller à l'assaut. Et je crois que ça, c'est important. Parce que s'il est bien d'arroser le monde d'amour, il faut aussi combattre dans ce monde. Et ça, je l'assume pleinement. Il faut lutter. Lutter contre le mal. Lutter pour défendre la justice. Il faut lutter pour combattre la haine, l'intolérance et pour défendre le plus faible. Et on ne peut pas, je dirais, rester dans sa tour d'ivoire à regarder le monde se faire assassiner et dire « Mes enfants, je vous aime ». Ou alors, débrouillez-vous, moi je suis bien à l'abri derrière mon rempart, mais je vous aime quand même et Dieu vous donne sa grâce. Ça ne suffit pas. Il faut combattre. Et la tradition chrétienne l'a compris depuis longtemps. Ça a donné l'un de nos plus beaux cantiques que nous allons chanter tout à l'heure, tous ces cantiques guerriers du XIXe siècle, « Debout, Sainte Cohorte ». Ça a donné « L'armée du salut », bien sûr, œuvre extraordinaire du XIXe siècle, qui aujourd'hui est la première œuvre à aider à lutter contre la misère et l'exclusion dans notre société. Cela dit, Jésus a peu utilisé ce genre de vocabulaire, ce qui m'intrigue un peu. Pourtant, dans le fond, en lisant bien l'Évangile, je crois que Jésus n'était pas si pacifique que ça. Alors, il l'a peu montré physiquement, bon, sauf quand il s'est fait un fouet avec des cordes lors des marchands du temple. Mais dans le fond, Jésus était quand même extrêmement agressif. Ça intrigue beaucoup de lecteurs de l'Évangile. On a l'image d'un Jésus mièvre, avec une grande barbe, qui dit « Peace and love, mes frères », il lui manque plus qu'un joint au coin de la bouche. Mais en fait, quand on lit l'Évangile, Jésus, il était extrêmement agressif. Avec les pharisiens, il n'était pas courtois du tout, hein, pas du tout gentil, il n'était pas doux, pas mielleux. Et Jésus n'y allait pas par quatre chemins quand il disait leur vérité aux gens. Alors oui, bon, c'est vrai, c'était pas un... Il n'y a pas un couteau entre les dents, mais néanmoins, il n'était pas neutre, c'est ça que je veux dire. Et il ne se contentait pas de dire aux pharisiens, Dieu vous aime, soyez gentils. Il avait une vraie force, je dirais, d'action, voire même d'agression. Et je crois que Dieu nous donne aussi cette combativité nécessaire pour être dans le monde, non pas celui qui se retranche. Le retranchement n'est pas une conception biblique. Et encore moins évangélique, mais au contraire une conception même offensive dans le monde contre le mal. Et il y a de nombreuses phrases dans ce sens, par contre dans les lettres de Paul, où Paul parle du bouclier de la foi, de l'armée de la parole, du casque de l'espérance ou du salut, je ne sais plus, et Paul décrit toute la panoplie du guerrier, toutes les armes du chrétien qui est en combat dans ce monde. Et ça va même encore plus loin d'ailleurs tout cela, parce que certes il peut y avoir une action concrète, mais je ne pourrais pas prétendre que cela soit le dernier mot de l'Évangile. Et je pense que l'Évangile va encore plus loin en nous présentant une certaine manière de comprendre la façon avec laquelle Dieu et le croyant est appelé à être à l'œuvre dans ce monde, et que cette façon, elle est déjà cachée dans les mots de ces psaumes que je vous ai cités. Parce que reprenons encore notre rocher, qui décidément m'intéresse beaucoup. Le rocher, sous ses deux formes, tsour ou sela, donc deux mots pour dire rocher, qui sont à peu près interchangeables, si vous cherchez dans n'importe quelle concordance, partout où il est question de ce rocher dans l'Ancien Testament, vous verrez que ça n'est pas un rocher stérile, ça n'est pas un rocher immobile, et finalement imbécile. Mais dans la Bible, ce rocher, il est très particulier. C'est là, précisément, de ce rocher ou du rocher que Moïse fera sortir de l'eau. C'est-à-dire que c'est un rocher qui est source de beaucoup de choses extraordinaires et même source de grâce. L'eau, nous l'avons vu, c'est le symbole de la grâce. Pour tous ces voyageurs assoiffés dans le désert, eh bien, on a besoin d'eau pour vivre. L'eau qui est offerte à tous, bons et méchants, eh bien, l'eau d'où sort-elle? Elle sort de ce rocher. Et c'est une idée, ça, très forte dans le judaïsme. C'est même dit dans le psaume 78, au verset 16, où le psalmiste dit « Du rocher, Dieu fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. » Donc, vous voyez, le rocher... Il est souvent important dans la Bible plus pour ce qui sort de lui que pour le simple fait qu'il soit dur et solide. Et ça va même encore plus loin, parce que la personne qui va le plus clairement affirmer que Dieu est rocher, c'est Anne. Anne, au premier livre de Samuel, qui va justement ainsi confesser sa foi. « Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. » Et quelle est l'histoire d'Anne ? C'est que Anne était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle confesse sa foi. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Et voilà qu'elle devient enceinte et qu'elle donne naissance à Samuel. Ça veut dire que ce rocher, il est source, vous voyez, d'une fécondité incroyable. C'est de ce rocher que vient l'eau de la grâce, l'eau qui va faire vivre le peuple dans le désert. C'est ce rocher aussi qui donne la fécondité, qui donne les enfants, comme il le donnera à Anne, qui aura le petit Samuel. Donc le rocher n'est pas juste quelque chose de dur comme un caillou. De ce rocher, il sort aussi, curieusement, du lait et du miel. Écoutez cela, Deutéronome 32, verset 13. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher. C'est étrange, ça, non? Il lui a fait boire l'huile qui sort du rocher le plus dur. Et vous voyez que ce rocher, il est source de vie. Et il est source de fécondité. Écoutez encore Deutéronome, juste après, 32. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Voilà qui est très étrange pour nous. Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Et donc vous voyez que ce rocher, l'Éternel est mon rocher, c'est pas juste un caillou. Ce rocher, c'est un rocher qui donne la vie, qui donne l'eau, qui donne la grâce, qui donne la fécondité, qui donne la douceur, le lait et le miel. C'est le Dieu qui nous engendre. Et d'ailleurs, la tradition rabbinique l'a compris ainsi, en disant que ce mot rocher tzour est tout à côté d'un autre mot, tsayayir, qui veut dire en hébreu l'artisan, le fabricant, celui qui façonne quelque chose, un objet, une statue, peut-être même une idole d'ailleurs, mais celui qui sculpte. Et donc Dieu, ce rocher, il est notre sculpteur. Il est celui qui nous façonne et qui nous engendre. Et je crois que finalement, ça, c'est la clé de tout. Dieu est un rocher, source de vie et de fécondité, et c'est par là qu'il nous sauve. Il ne nous sauve pas en nous préservant comme des chefs-d'œuvre en péril, mais en nous ouvrant à de nouveaux chemins, en nous mettant en marche dans des chemins de fécondité. D'ailleurs, si on réfléchit à l'histoire d'Israël, le peuple d'Égypte sera sauvé, mais il sera sauvé par sa descendance. Il paraît, vous savez, aucun de ceux qui ont quitté l'Égypte n'entreront dans la terre promise. Pourtant, le peuple est sauvé. Cela veut dire que, finalement, nous sommes sauvés par notre descendance. Alors, soit par nos enfants dans la chair, soit par ce que nous transmettons, et c'est ça qui nous sauve, c'est la fécondité. Qu'est-ce que de notre vie sort? Et quand on arrête justement de se considérer comme un chef-d'œuvre en péril qu'il faut essayer de préserver au maximum des ravages du temps, quand on se vide de sa substance pour donner la vie, eh bien c'est comme cela qu'on est sauvé. Et c'est de cette manière-là, je crois, que Dieu nous sauve. Donc ayez confiance. Mais jamais on ne voit le peuple d'Israël enfermé derrière ses remparts. C'est plutôt le contraire. Quand on voit des remparts, c'est à Jéricho. Et les remparts, on les écroule. Pas de remparts, pas de murailles. On tourne autour et les murailles tombent. On détruit et on entre. C'est tout. Ces murailles de Jéricho, d'ailleurs, elles sont étranges. Là aussi, puisque j'y arrive. J'ai cherché, cherché, recherché. Je n'ai pas trouvé le mot mur, muraille, rempart dans l'histoire de Jéricho. On nous dit juste qu'il ne peut pas y entrer. Alors, l'idée d'une muraille se trouve juste dans le Nouveau Testament. Et là, je vais quitter un peu l'hébreu. Hébreu 11, enfin, je quitte l'hébreu pour tomber dans l'Épître aux Hébreux. Excusez-moi, ce n'est pas clair. L'Épître aux Hébreux qui nous dit « C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. » Donc là, on retrouve les murailles. Comme je suis bête, un étudiant bête et juste travailleur, j'ai réouvert ce coup-ci mon dictionnaire grec et j'ai cherché les murailles, teikos. Et mon dictionnaire m'a dit, ça m'a réjoui, que teikos vient de ticto, qui veut dire enfanté, enlacé. Et voilà que ces murailles de Jéricho me renvoient encore à l'enfantement et à la fécondité. Avouez que c'est étrange. Donc le Seigneur est celui qui nous enlace, probablement parce que la muraille, c'est ce qui embrasse une ville et qui l'entoure comme une mère enlace son enfant. Et je crois que c'est là une idée importante, que l'on trouve aussi, bien sûr, dans tous ces autres mots des psaumes, quand on nous dit « Dieu est notre abri ». Abri, c'est l'endroit où on se réfugie, pas militairement, c'est pas du langage militaire, c'est un abri, quel qu'il soit, contre quoi que ce soit. Et encore un autre mot, « Dieu est mon refuge », psaume 71, verset 3, « Maon », mon dictionnaire me dit que ça vient de « ona », qui désigne la cohabitation conjugale. les époux qui vivent ensemble. Alors je ne sais, voilà, cette demeure. Dieu est pour moi le lieu où je peux m'unir pour trouver la fécondité. Et tout cela disparaît, bien sûr, dans nos traductions. Encore un lieu de fécondité. Donc, vous voyez que Dieu n'est pas qu'une tour forte. Dieu n'est certainement pas un donjon dur, froid et stérile. Mais Dieu est un abri. Il nous protège à l'ombre de ses ailes. Il est un rempart, certes, mais comme les bras d'une mère forment un rempart autour de son nouveau-né. C'est ça le rempart qu'est notre Dieu. Ce rempart de tendresse, même chanté par le psaume 8. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits qui sont encore à la mamelle. Rempart que tu opposes à l'adversaire et où l'ennemi se brise en sa révolte. Le rempart qui s'oppose à l'adversaire et où l'ennemi se brise en sa révolte, c'est le petit bébé qui tète encore sa mère. Voilà un drôle de rempart. Et je vous l'ai dit, Jésus est, je crois, justement ce type de protection. C'est peut-être pourquoi il n'est pas présenté comme une forteresse, ni une muraille, ni un donjon, mais qu'il est l'ouverture, qui mène son troupeau dehors parce que je n'ai plus peur, parce que je sais que Dieu est ma force et que j'ai une force parce que je suis aimé, que Dieu me donne cette force intérieure et non pas un bouclier de l'extérieur. Le croyant n'a pas peur parce qu'il sait qu'avec Dieu, il est toujours vainqueur. Et comme nous le dit Paul si joliment, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Et j'ai la certitude que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, ni la vie, ni la mort, ni les épreuves, ni les puissances d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre créature. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Pour la vie, pour le bonheur, pour la joie, pour la paix et pour l'éternité. Amen.